Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle David Rosset et je suis pasteur de cette belle communauté. Et puis, nous avons le privilège chaque dimanche de pouvoir nous arrêter sur un ou plusieurs textes de la parole de Dieu, qu'on appelle la Bible. Et puis, c'est ce qu'on va faire ce matin, tous ensemble. Alors, j'ai intitulé effectivement ce message « Vision floue », donc si vous ne voyez rien derrière vous, c'est normal. Je remercie Jean-Pierre de vouloir me prêter ses lunettes, mais ce n'est pas nécessaire. Puis toi, tu peux laisser les tiennes. C'est effectivement cette vision floue et cette image que m'a suggéré Damien pour illustrer ce message de ce matin. Parce qu'on va pouvoir... Je te fais signe, alors. Ça ne passe pas. Tu peux mettre la suivante. On va pouvoir aller avec les disciples et se rendre compte que souvent, ces disciples, ils nous ressemblent. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les disciples, si on les a, au fil de des ans et de la tradition, érigés en saints, c'est-à-dire en personnages à part, ils étaient d'abord, comme vous et moi, des simples hommes et femmes, enfin surtout des hommes en fait, mais il y avait aussi des femmes qui ne sont pas mentionnées, mais... Ils étaient aussi là, en tout cas les 12, il n'y avait que des hommes, mais ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions, ils font des crevés ou des choses pas forcément extraordinaires. Et puis, dans l'évangile de Marc, ils sont souvent pris à partie, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment accusés, on les met dans leurs petits souliers, et puis on pourrait se dire que, logiquement, les personnes qui les prennent à partie, ça doit être un peu les ennemis de Jésus, c'est-à-dire soit les pharisiens, c'est un groupe de juifs qui aimait bien embêter Jésus, un autre groupe de juifs, c'était les sadducéens, qui venaient toujours avec des questions un poil compliquées pour le faire tomber. Et puis on pourrait se dire que c'est toutes ces personnes-là qui cherchent à mettre à l'épreuve les disciples. Eh bien, ce n'est pas le cas. À aucun moment, ces groupes-là, ou très rarement, ces groupes-là cherchent à mettre à l'épreuve ses disciples. La seule personne qui met fréquemment à l'épreuve les disciples, vous savez qui c'est ? C'est Jésus. Exactement. Souvent, voire très souvent, les disciples sont pris à partie par Jésus lui-même. Or, moi, je dois dire qu'actuellement, ce n'est plus un Jésus qu'on prêche très très souvent, ça. C'est Jésus qui t'aime, Jésus qui est là, Jésus qui t'accompagne, Jésus qui prend soin de toi. C'est presque un peu une grand-maman. Non, quand même pas, mais c'est... Il y a plus Jésus qui prend à partie ses disciples, qui les pousse dans leur retranchement, et puis qui va un peu les chercher. Et puis on pourrait tout résumer, en fait, sous un chapeau, quand Jésus les prend à partie, de dire qu'il met en lumière leur manque de foi. Et puis, grosse surprise également, les disciples, vous pensez qu'ils apprécient plutôt ce traitement de faveur ou bien ils... plutôt moyen, comme ça, voire pas du tout. Alors, c'est plutôt pas du tout, hein. C'est plutôt pas du tout, parce qu'on voit très bien dans différents textes de l'Évangile que ce n'est pas des gens très très dociles, ces disciples, mais qu'il y a une espèce de tension. Et puis ça, on ose, c'est presque un gros mot, parce qu'on pense toujours quand Jésus et ses disciples, c'était la grande harmonie, puis que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais non, si on lit vraiment les évangiles, on se rend compte que ça monte, ça monte, ça monte, puis des fois, ça explose un peu. Alors, c'est ce que je vous propose de vivre ce matin. Avec un premier texte, vous pouvez lire dans vos Bibles ou sur vos téléphones, dans Marc 8, puis Vincent peut passer la suivante. Marc 8, à partir du verset 14. Marc 8, 14, voilà ce qui nous est dit, un épisode de la vie de Jésus et ses disciples. Les disciples ont oublié de prendre du pain. Moi, je dis bravo. Hein. Ils ont un seul pain avec eux dans la barque pour un long voyage. Et Jésus leur donne cet ordre. Faites attention. Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alors les disciples se disent entre eux, puis là c'est quand même assez drôle, « Ah mince, on n'a toujours pas de pain !» Et Jésus, on se demande dans quelle tête il doit avoir, s'en aperçoit et leur demande, « Mais pourquoi est-ce que vous dites entre vous, nous n'avons pas de pain ? Est-ce que vous ne savez pas encore ? Vous ne comprenez pas encore ? Est-ce que vous avez donc l'intelligence fermée ? Vous avez des yeux, verset 18, j'ai mis deux fois toutes ces questions-là parce que c'était important de les avoir toutes à la suite. Vous avez des yeux, est-ce que vous ne voyez pas ? Vous avez des yeux, est-ce que vous ne voyez pas ? Vous avez des oreilles, mais est-ce que vous n'entendez pas ? Et Jésus leur dit encore, conclusion de toute cette tirade de questions, et vous ne comprenez toujours rien, vous ne comprenez pas encore. J'invente rien, on peut laisser la précédente. Et Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore. Alors, au minimum, ce qu'on peut souligner dans ce petit épisode de la vie de Jésus et ses disciples, ils sont sur une barque, sur le lac de la mer de Galilée, c'est qu'au minimum, il y a une mécompréhension, voire une incompréhension totale. Ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Si vous voulez prendre un exemple de personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, je trouve ce petit extrait de l'évangile de Marc, il est assez interpellant. Ils sont vraiment à des niveaux complètement différents. Les disciples, ils sont terre à terre parce qu'ils sont mal dans leurs chaussures, parce qu'ils n'ont qu'un pain, puis qu'ils vont se demander qu'est-ce qu'ils vont avoir à manger. Puis Jésus, il a envie de leur faire un pas de plus, puis de les faire aller plus loin, puis de leur ouvrir un peu l'esprit. Puis, même Jésus, dans toute sa puissance, force est de constater qu'il n'y arrive pas. Échec total. On va quelques versets plus loin. Verset 27. Toujours dans le chapitre 8 de l'évangile de Marc. Jésus part avec ses disciples. Il est revenu de la mer de Galilée et il va vers les villages voisins de Césarée de Philippe. Sur le chemin, il continue ses questions. Il demande à ses disciples, « Pour les gens, qui suis-je ?» Les disciples lui répondent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. » Et Jésus leur demande, il va vraiment les chercher chez eux, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui répond, « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur commande sévèrement, « Ne dites rien à personne. » Passez la suivante. Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui, et ils le feront mourir. Et trois jours après, il se relèvera de la mort. » Il leur dit cela très clairement. Alors, Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, il regarde ses disciples et il fait aussi des reproches à Pierre. Donc, vous voyez, ça y va. Il lui dit, et puis là, c'est quand même pas piqué des vers, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. » On peut un peu se poser des questions. Si vous étiez d'accord de venir avec moi dans la peau des disciples qui suivent Jésus, de se dire qu'on peut s'identifier à ce qui leur arrive, quand on lit à la suite ces deux épisodes, on peut un peu se poser des questions de savoir si on emmène vraiment très large. Comment réagir face à une telle précision et une telle incision de Jésus dans ses paroles, dans ce qu'il dit à ses disciples ? Ça va loin, hein ? Quand je vous disais que ça montait en symétrie, entre Pierre et Jésus, là, ça monte vraiment en symétrie. Nous, on ne veut pas le voir parce qu'on se dit que voilà, c'était assez harmonieux et tout se passait bien. Ça frottait. Ça frottait, ça aboutissait à des tensions et ça allait assez loin. Arrière de moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. C'est pas rien. Alors pour nous, on peut se demander, et puis c'est une bonne question, comment est-ce que l'on peut vivre notre vie de foi avec un tel écart ? Comment finalement, en méditant ces textes-là, ces épisodes de la vie des disciples, comment est-ce qu'on peut vraiment vivre à la suite de Jésus ? Et tout de suite, pour moi, il y a un écueil redoutable qui arrive. et puis que j'ai tout de suite envie de balayer aussi. D'une certaine façon, c'est celui de la culpabilité. Parce que quand on lit ces textes, on se dit, Jésus ne peut que pointer également mon manque de foi. Et puis ensuite, il y a toute la litanie qui suit, et puis on s'enferme, et puis on s'écrase, et puis on saute au flagelle, et tout, et tout. Il y a le spectre, je pense pour toutes et tous, le spectre que j'appelle du disciple imparfait, du disciple manque de foi. Puis on peut avoir une étiquette comme ça qui nous est collée sur le dos. Et puis, c'est une visée finalement qui n'est pas forcément très encourageante. Et puis je crois qu'on est à des degrés divers, hein, tous plus ou moins concernés par ces réactions de disciples imparfaits, d'étiquettes qui pourraient nous coller dans le dos, ce sentiment un peu qui mêle impuissance et honte. Or, j'ai quand même une bonne nouvelle, ce n'est pas là que Jésus veut en venir, ce n'est pas là qu'il a envie d'amener ses disciples, parce que vous allez voir ce qui se passe entre deux. C'est là précisément ce texte de guérison qui est encastré entre les deux textes que nous venons de méditer. Et c'est là que Jésus veut emmener ses disciples. C'est là et nulle part ailleurs. Et pour ce faire, il utilise, entre guillemets, il rencontre quelqu'un d'autre et à travers le miracle qu'il accomplit, il veut montrer quelque chose à ses disciples. Donc je lis verset 22. C'est vraiment encadré, vous pouvez le voir dans vos Bibles, c'est encadré entre les deux textes que nous venons de lire. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens lui amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme, il pose les mains sur lui et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle ouvre les yeux et il dit « Je vois les gens, je les vois mais comme des arbres. » Et ils marchent. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle, et alors celui-ci voit clairement. Il est guéri. Il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit, « Retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. » Pourquoi est-ce que vous pensez que, dans la parole, ce texte est mis là, au milieu ? C'est assez évident que la parole veut pointer sur nous disciples et sur les disciples historiques, que ce soit en fait eux aussi, et pas seulement l'aveugle au sens physique du terme, qui a besoin de guérison. Les disciples, aussi proches de Jésus qu'ils étaient, aussi forts qu'ils étaient, parce que c'est quand même sur eux que Jésus a choisi de bâtir son Église qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux, en fait, qui ont besoin de guérison, et pas seulement tous ces aveugles, ces estropiés qu'on amenait à Jésus. Et c'est extrêmement fort de voir que l'évangéliste Marc, il pointe là-dessus en plaçant ce texte de guérison au milieu de ces deux textes de tension et d'incompréhension entre Jésus et ses disciples. Et c'est pour ça aussi que la ligne ou l'écueil qu'on prend si souvent de découragement du disciple imparfait qui est culpabilisé, qui est sentiment de honte, sentiment d'impuissance, c'est une voie sans issue, précisément parce que Jésus, à travers cette expérience avec l'aveugle de Bethsaïda, nous donne la voie à suivre. Et cette voie à suivre, c'est de se dire que oui, tout disciple a besoin de guérison. Qu'il soit fort, qu'il soit faible, qu'il soit en forme, qu'il soit plutôt dans une mauvaise phase, tout disciple a besoin de guérison. Et c'est particulièrement vrai quand on pense à Pierre qui fait une confession de foi extraordinaire. Il reconnaît quand même que Jésus est le Messie. Donc là, on pourrait se dire, il passe de la vision floue à la vision claire. Mais 2 minutes plus tard, ils arrivent au summum de la tension avec Jésus parce que pour lui, il n'a pas exactement compris ce que ça signifiait être le Messie, et surtout, il n'a pas du tout envie de le comprendre. Donc même, je dirais, quand il est au sommet de sa forme, Pierre, il arrive à dire que Jésus est le Messie, et ce n'était pas évident, c'est la première fois de tout l'Évangile qu'il arrive à dire que Jésus est le Messie. Tout de suite après, finalement, il redescend, c'est la chute vertigineuse, parce qu'il n'a encore pas compris en quoi consistait le Messie et la messianité de Jésus. Donc, à tout moment, qu'on soit au top ou qu'on soit en bas, on a besoin de cette guérison. On a besoin de cette guérison qui ne peut être donnée que par Jésus. Et il y a une autre phrase qui m'a interpellé en préparant ce message, c'est même une phrase d'un Suisse allemand, donc c'est dire que c'est... c'était inspiré. Non. Ursula, tu m'en veux pas, hein, c'est pas ça. Puis tous les autres aussi. Non, mais c'est un gars que j'aime bien qui s'appelle Beppi Boppart. Il est directeur de Campus pour Christ, qui est assez lucide parce qu'il nous dit « Chaque génération se débat avec de nouvelles questions, car notre myopie évolue. » On a toujours ces problèmes, quel que soit notre âge, qu'on ait 15 ans de foi, qu'on ait une année de foi, qu'on ait un mois de foi, qu'on ait 25 ans ou 55 ans de foi. On a toujours ce risque de la vision floue, comme cette photo nous le montrait au début. Et je dirais qu'en résumé, puis c'est aussi un peu deux écueils que Beppi y voit, c'est de se dire que peut-être une plus ancienne génération, mais là je parle moins en connaissance de cause, c'était de se dire que l'obéissance était très fortement valorisée. C'est-à-dire que si on suivait Jésus, on était amené à obéir à 100%, et puis qu'on n'avait pas vraiment 36 000 alternatives. Donc on obéissait à Jésus, et puis on espérait que ça marche en étant 100% obéissant. Il fallait suivre un certain nombre de règles, et puis espérer que ça marche. Et puis si ça ne marche pas, ben là, ça devient un peu compliqué, parce qu'on se rend compte qu'on est le disciple imparfait, et puis on se demande si ça peut continuer ou bien pas. Et puis le gros risque dans ces situations-là, puis le gros risque qui a été souvent observé, c'est qu'on se renferme sur soi, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas possible d'être obéissant à 100%, mais on a un peu de la peine à solliciter la guérison de la part de Jésus. C'est quelque chose qu'on observe et puis qu'on a observé assez souvent, c'est-à-dire que l'obéissance à 100%, des fois, avait le paradoxe de nous couper un peu de Jésus parce qu'on n'était pas d'accord de demander la guérison. Parce qu'on se disait, mais si je demande la guérison, ça veut dire que j'admets mon imperfection, donc si j'admets mon imperfection, ça veut dire que je n'ai pas bien obéi, et puis tout le système qui se met en place. Hein, qu'on connaît bien un schéma qu'on se met en place. La guérison n'est pas sollicitée. Mais la myopie, je dirais, à l'heure actuelle de ma génération puis des générations en dessous, c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre, ce « je vis sous la grâce ». Donc, de toute manière, Jésus me donne la liberté, Jésus accompagne mes rêves, Jésus me dit que je suis le meilleur, Jésus me dit que si, ça, 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 ça. Et puis, finalement, comment ça se fait que j'aurais besoin de guérison si Jésus me dit autant d'impulsions positives ? Je suis ci, je suis ça, je suis ci. Finalement, je suis presque le disciple parfait. Puis, quand je lis des textes où Jésus reprend ses disciples, je ne sais pas trop que en penser, parce que de toute manière, Jésus, il m'a dit X bonnes choses, et puis jamais rien de négatif. Donc, je vis sous la grâce, et je n'ai pas de besoin. Alors, je dirais que c'est peut-être, j'essaye, hein, je réfléchis à haute voix, c'est peut-être deux myopies que l'on peut vivre dans une église intergénérationnelle. On essaye de tout bien faire, puis on n'a pas besoin de la grâce, parce qu'on se dit qu'on a fait le maximum, et puis ce qu'on n'arrive pas à faire, bon, on ne sait pas comment faire avec. Ou alors le contraire, de toute manière, je vis sous la grâce, j'y vais à l'aise, tranquille, et là non plus, je n'ai pas besoin de guérison. Ce n'est pas facile d'admettre un besoin. C'est facile de se dire, ben voilà, le pasteur il nous a bien montré qu'effectivement on avait besoin de guérison, c'était clair dans la Bible, dans l'évangile de Marc, mais d'aller à l'étape pratique, puis je trouve que c'est un bon moment l'été pour aller dans cette étape pratique, d'admettre un besoin, et d'admettre un besoin qui plus est, de guérison, c'est vraiment loin d'être simple. Il y a un parallèle, c'est qu'on est obligé d'admettre l'exigence de l'enseignement de Jésus. Parce que si on se dit que Jésus, c'est juste quelqu'un qui nous encourage, et il le fait, mais qui ne nous pousse pas aussi dans nos retranchements, on n'a pas besoin de guérison, parce que finalement, on est sur une ligne assez plate, continue, et puis on n'a pas besoin d'être challengé. Admettre l'exigence, ça signifie aussi admettre un besoin de guérison parce qu'on a besoin pour progresser dans la vie avec Christ, ce qu'on appelle la sanctification ou la vie sainte. On a besoin d'admettre cette exigence pour admettre un besoin de guérison. Et d'ailleurs, c'est interpellant avec les disciples, puis ça nous console d'une certaine façon, que même eux, ils ont énormément de peine d'admettre des besoins avec Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça aussi en lisant les évangiles. Vous savez, une des seules fois où ils admettent vraiment un besoin puis qu'ils se mettent à genoux devant Jésus, quand c'est ? La tempête apaisée, exactement. C'est le seul moment, mais je n'ai pas fait une étude exhaustive de tous les textes évangéliques, mais à mon avis, c'est un des seuls moments, en tout cas, où les disciples osent admettre un besoin à Jésus. C'est quand ils ont très, très peur, et puis que tout va à volo, puis que Jésus dort au milieu de la barque. Là, à ce moment-là, tout à coup, il se réveille et dit « Tu peux venir, s'il te plaît, parce que là, on a un peu les chocottes. » Mais c'est le seul moment. Toutes les autres fois, soit ils ont peur et puis ils se bloquent, soit ils continuent leur débat interminable, savoir si on a pris le bon bout de pain ou bien pas. L'épisode suivant, encore, quand Jésus leur dit qu'il devra souffrir et puis qu'il devra être crucifié, quelques versets plus loin, vous savez sur quoi ils se battent, les disciples ? Pour savoir qui sera le plus grand à la droite de Dieu. Donc, Jésus vient de leur donner une partie de son cœur extraordinaire, plutôt que de dire « mais on aurait besoin de comprendre un peu plus », non, ils repartent sur toute autre chose pour savoir qui sera le plus grand et qui aura la meilleure place dans le royaume. Même eux ont énormément de peine à admettre ce besoin de guérison. Alors, pour nous, de nouveau, on est finalement à la même enseigne. Parce que ça nous demande pas mal d'humilité, ça nous demande d'admettre ses exigences, d'admettre ses réalités que Jésus nous pousse dans nos retranchements. Et ça nous demande aussi d'accepter que, puis ça, c'est pas forcément le plus facile non plus, d'admettre qu'on a des épisodes de vision floue. C'est-à-dire qu'on pense comprendre quelque chose, mais en fait, on est comme l'image du début, on est avec des épisodes de vision floue. Ça demande de s'adresser à quelqu'un d'autre aussi. Puis ça, c'est très original dans la pensée actuelle. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on va, même si on va chez le psy, on va dire, mais qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur ? Comment est-ce que tu vois les choses dans ton moi profond ? Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous retourner à l'intérieur. Alors que lorsqu'on est chrétien et qu'on admet un besoin, on fait précisément un mouvement inverse, on ne fait pas un mouvement d'introspection, on fait un mouvement d'ouverture vers Dieu, puis on attend notre secours, non pas de nous-mêmes, de ce que peut trouver à l'intérieur, mais on fait un pas de foi, justement, où on essaye de s'ouvrir à une révélation qui nous vient d'ailleurs. Donc, ce n'est pas évident, le parcours que Jésus nous propose, le parcours que nous avons choisi en tant que croyants, mais je pense que c'est le seul véritable. Et ça admet aussi une certaine forme d'authenticité, dans le sens que ça rejoint le texte de Gianfranco ce matin. Pour Dieu, on peut essayer de lui cacher et puis de faire tout bien, tout beau, je n'ai pas besoin de guérison. Mais Dieu, il ne va pas se laisser avoir. Il va regarder à nos cœurs et c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Voilà. La conclusion de ce message, c'est de se dire, on n'en reste pas coincé à cette vision floue, mais on est appelé à demander la guérison. Et cette guérison, elle peut nous ouvrir vers cette vision claire, comme on le voit sur la photo. On n'est pas condamné, c'est un risque de se dire, qui existe aussi dans le monde chrétien, de se dire, de toute manière, les croyants ne peuvent que avoir une vision floue. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais tout connaître de Dieu, que Dieu reste obscur, et tatatata. Ça, j'ai attendu pendant de nombreuses heures. J'y crois pas. C'est vrai parfois, mais Dieu nous promet aussi, et il nous l'offre, je crois qu'on pourrait tous en témoigner, de ces moments de guérison où tout à coup notre vision devient claire. Tout à coup, on passe d'une période où tout est troublé, et tout à coup, ça s'ouvre, on ne sait pas exactement pourquoi, mais les choses sont assez claires, puis on voit le chemin à suivre. Peut-être que 10 minutes plus tard, là, il y a un peu des nuages, il sera de nouveau dans le brouillard, je ne sais pas, c'est marcheur. Enfin, c'est le désert, je ne pense pas. Si c'était en montagne, ce serait possible. Mais de se dire, il y a ces moments-là qui interviennent de manière différenciée. Et je crois que ça, c'est une des clés pour notre vie de disciple, une clé que beaucoup d'entre vous connaissent beaucoup mieux que moi, de se dire que dans notre marche avec Jésus, on alterne ces moments de vision floue et ces moments de vision claire. On alterne entre ces moments où tout nous paraît évident puis on fonce, avec des moments où on se pose 14 000 questions, puis on se demande si on est dans la volonté de Dieu ou bien pas. Et dans les deux moments, Jésus nous promet sa guérison. Quand on dit que mon seul abri, c'est moi, ou bien changement que chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, je crois que c'est la confession de foi qu'on peut faire. Et cette confession de foi dans ce Dieu qui guérit et qui ne nous laisse pas ni dans un état de vision floue, ni qui nous dit que vous allez avoir tout le temps la vision claire. On est vraiment dans cette route, dans cette marche qui parfois est désertique, parfois est magnifique, mais où nous pouvons dire chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ta guérison. Alors que nous puissions aller dans cette période d'été, de calme, de repos, avec peut-être ce besoin au cœur de se dire qu'on peut prendre des plages un peu plus larges pour oser cet effort de se dire « Ouvre notre cœur, Seigneur, pour que tu puisses apporter ta guérison en nous. » Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu es un Dieu qui guérit X sortes de maladies, X sortes de cécité. Merci Seigneur parce que tu nous fais passer de cette vision floue à la vision claire. Merci parce que tu es là à nos côtés, quel que soit notre état de forme finalement. Seigneur, permets-nous de vivre avec sérénité sur ce chemin de foi, avec ces exigences qui sont les tiennes. Mais ces exigences finalement qui nous sauvent parce qu'elles nous libèrent de quantité de choses insurmontables, Seigneur. Vraiment que nous puissions être comme cet aveugle de Bethsaïda, venir à tes pieds. Oser admettre aussi qu'une guérison ne se déroule pas du premier coup, mais qu'il peut y avoir deux ou trois essais, même avec toi. Et merci pour cet exemple des disciples qui se rapprochent tellement de nous, Seigneur, de nos imperfections, mais des imperfections dans lesquelles tu travailles, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta présence à nos côtés. Amen.